9h dans le bureau de Par Jupiter.
Bon les amis.
Ah là là, c'est pas hyper bon signe quand même. Oui. Commence la journée comme ça.
Non, mais j'ai décidé d'inaugurer une nouvelle rubrique dans Par Jupiclass.
En effet, c'est pas bon signe.
Une rubrique explicative, une sorte de c'est pas sorcier de l'actu.
Non mais ça s'explique pas l'actu, ça se vit. Voilà. Regarde-moi, je suis tout le temps sur le terrain, je suis au cœur de l'actu.
Voilà. OK, bah justement, toi qui es tout le temps au cœur de l'actu, explique tout par exemple la crise des sous-marins.
Démerde-toi mon pote.
Oui, alors bah il y a des sujets que je maîtrise mieux que d'autres
Ah bah voilà, d'où l'utilité d'une rubrique décodage de l'actu. Oh. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette crise?
Que l'Australie est méchante.
Ouais, et Jean-Yves Le Drian, il est nul.
Oui, parce qu'il a rappelé les sous-marins.
Non, la France a rappelé ses ambassadeurs. Pas ses sous-marins.
Eh ben ouais, non mais tout ça c'est à cause de la Chine.
Voilà.
Bon, on va tout reprendre. Alors, au départ, c'est un contrat conclu en 2016 qui avait acté la livraison des sous-marins français à propulsion nucléaire par Naval Group en Australie.
Oui, et puis les Américains ont tout cassé.
À cause des Chinois.
Non. Enfin, pas tout à fait. L'intérêt de l'Australie ici, c'est de se rapprocher de ses alliés historiques.
La Nouvelle-Zélande.
Et la Chine.
Oh putain, on va y arriver.
Ouais, mais c'est pas évident.
Oh, bah, moi, j'y comprends rien.
Les sous-marins, ils sont où du coup?
Bah, ils sont en Chine.
Mais non, les sous-marins, ils sont restés en France.
Bah, alors, c'est quoi le problème?
Mais parce qu'on voulait les vendre.
Mais pourquoi on est fâché sur Jean-Yves?
Mais oui, parce que grâce à lui, s'il y a une guerre, on a plein de sous-marins.
Pour attaquer la Chine.
Voilà. Ok. Ouais, c'est bon, ça va, j'abandonne, ça va, on va pas la faire cette rubrique. Puis, ouais, je m'en fous, je vais prendre un café.
Yes.
Wow, bien joué. On a eu chaud.
On aurait dû travailler.
Travailler comme des Chinois.
Bonjour la France Inter et silence dans la classe. Bienvenue chez les petits graffeurs de LOL. Et voici la devise du jour. C'est dans la vente de sous-marins qu'on reconnaît ses vrais amis. Juliette Arnoux, bonjour.
Bonjour Charline.
Avec vous, nous poursuivons la lecture de la Storia d'Elsa Morante, un classique italien qui raconte la Seconde Guerre mondiale à Rome, mais pas du point de vue des puissants, plutôt du point de vue des pauvres.
Quoi, t'as faim?
Oui.
Ah non, mais j'ai pas de goûter. Bah, mange du sable, t'adores ça.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Vous faites œuvre pédagogique aujourd'hui.
Oui, oui.
Vous êtes chargé d'expliquer le monde aux enfants.
Les pitchouns, aux pitchouns, très exactement. je suis allé pour vous à la France Digital Day pour donner un petit cours de Startup Nation.
On a une marketplace qui met en relation les freelances.
Calme-toi.
Ça faisait longtemps.
Ça tout à l'heure. Calmez-vous, restez calme.
Et la Jupy Masterclass de cinéma est assurée aujourd'hui par Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Et bonjour.
Alors, vous avez choisi de nous parler des films d'horreur et vous nous expliquerez pourquoi ils ont mauvaise réputation. Et ça, c'est vrai. Ça se sent tout de suite quand on demande à quelqu'un quel est ton film d'horreur préféré.
Oh, je sais. Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny.
C'est pas un film d'horreur.
Bah, t'as pas vu jouer Michael Jordan.
Et à chaque bref, c'est un panier à 3 points. Voici Alex Vizorek.
Bonjour Charline Valounaker, je vous présente le reste de la classe. On commence par quelqu'un qui a l'air très sérieuse, mais c'est un énorme piège. La fille cachée du roi Baudouin et d'Annie Cordy. C'est Laurence Bibot, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi va-t-on parler?
De la bravitude. La bravitude des Belges.
Ensuite, Brassens disait pourquoi philosopher alors qu'on peut chanter. On a donc notre Spinoza de la guitare, Monsieur Frédéric Fromet.
Bonjour Alex.
De quoi allez-vous nous philosopher alors?
Pour ma part, c'est la chasse que je vais expliquer aux enfants.
Ah, ça c'est bien. Les chasseurs se réjouissent déjà. Et enfin, celle qui aime le foot et le violon, elle aurait donc adoré collectionner les vignettes Paganini. C'est Marina Chiche.
On a perdu.
De quoi on va parler?
Ça va glisser, ça va vibrer. Enfin, voilà, la corde sensible.
Très bien. Ajoutez à cela un journal qui mitonne, des exercices à la tonne, un dessin qu'on crayonne, et vous obtenez la dernière émission avant l'automne.
Oui. L'automne démarre, vous m'avez dit, à 21h21 et 2 secondes.
C'est bientôt.
Bon réveillon d'automne à tous alors.
Ah, dis donc. France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupiclass.
Au boulot!
C'est fou. fous tout ce qu'on apprend sur le service public.
Ouais, bien sûr.
C'est magnifique. Et on teste aussi la pédagogie collaborative. C'est-à-dire qu'on invite chaque semaine un nouvel élève. Et aujourd'hui, aujourd'hui on accueille Jean-Mathieu Pernat. On dit bonjour à Jean-Mathieu.
Bonjour Jean-Mathieu.
Nouveau de la classe.
Je préférais Mathilde à moi.
Mathilde, mais la semaine dernière.
Oui, mais enfin, attendez, alors, bonjour les enfants.
Chacun ses affinités.
Vous présentez 28 minutes sur Arte quand Elisabeth Quin est en RTT.
Oui.
Et aussi le week-end, toujours 28 minutes avec Renaud Dely. Et c'est puis ça. Vous avez travaillé de nombreuses années à France Info, oui. Notamment comme journaliste culture et aussi politique avec Les Informés, bien sûr, Jean-Mathieu Pernat. Alors, 28 minutes, c'est bien parce que cette année, comme elle est un petit peu tendue, agitée, est-ce qu'on peut dire qu'en niveau actualité, 28 minutes sur Arte, c'est l'émission qu'il faut regarder pour rester zen?
Ah oui, mais alors on est très 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 zen, hein, véritablement. Nous, ce qui se passe dans le monde, ça fait très longtemps qu'on en parle, donc on prend toujours beaucoup de recul. Et c'est vrai, quand on en sort d'une émission de 28 minutes, on est plutôt posé, en fait, véritablement, relâché, complètement détendu.
On a peu compris trop, les enjeux.
Un peu trop, d'ailleurs. C'est pour ça que les gens restent sur Arte après, en fait, parce qu'ils sont endormis, en fait.
Vous êtes sur l'élection de Ronald Reagan en ce moment.
Alors, si vous le permettez,
vous avez bien du recul maintenant
si,
sur le.
Si vous le permettez, Alex, je ne crois pas du tout à la chance du gouverneur de Californie.
Tous les soirs sur la chaîne franco-allemande. Et est-ce que Arte organise un pot de départ pour Merkel?
Ah, c'est un drame ça. Non mais c'est un drame. Vous allez soulever directement la chose. En effet, non mais je sais pas ce qu'on va devenir, hein, parce que 16 ans qu'elle est là, Mouti, hein, comme on dit. Hein. Voilà notre Mouti un petit peu. Je ne sais pas. Alors on me dit maintenant qu'elle allait peut-être être chroniqueuse chez Cyril Hanouna. C'est pas sûr encore. Mais non mais c'est vrai que ça va poser un vrai souci parce qu'on ne les connaît pas véritablement ceux qui arrivent. Ça faisait 16 ans qu'elle était là, donc bah, ça va être une soirée passionnante dimanche prochain, et d'ailleurs qu'on va vivre après, même lundi, on va en parler lundi, parce que ça aura forcément une incidence chez nous.
Eh ben, très bien, Jean-Mathieu Pernat avec nous à la fin pour la Jupi Masterclass du cinéma, et puis bah, nous, bah, quand certains vont chercher des clopes de l'autre côté de la frontière, nous on ramène une chroniqueuse. Ouais. Attention parce que ça veut dire que ça va
c'est
être
un lancement.
Attention.
Attendez, ça s'appelle un lancement.
Quand je vais vous lancer mon bras, ça va être à vous.
Okay.
Voilà, elle a fait ses classes chez les meilleurs à la RTBF,
bien sûr,
oui. Bien sûr, okay. Sur scène en Belgique. Et la voici. On accueille Laurence Bibeau.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers amis français. J'ai écrit ami. Tiens. Bonjour, chers collègues. Non, non, eh ben non. Tout n'était pas mieux avant. Enfin, je veux dire avant que ne s'opère le grand remplacement. Oui, je veux dire, tout le monde est quand même bien conscient, autour de cette table, j'en suis sûre, mais je veux dire, parmi nos auditeurs, que la pire menace pour un Français, c'est pas... Non, c'est le Belge, évidemment. Et sachez d'ailleurs que, en tant que Belge, nous partons de très loin. Et une fois encore, c'est vrai qu'on dit une fois encore... Merde alors,
Je me suis dit, elle va pas le faire.
Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, je suis spontanée. Les archives sont là pour nous prouver que nous partons de loin. Et ici, je vais partir depuis 1976 avec un journaliste qui s'appelle André Urbain, un brave journaliste qui ose non seulement se rendre à Paris, et croyez-moi qu'en 1965, il en fallait du courage pour se rendre à Paris, mais qui ose aussi poser des questions au sacré, à l'intouchable, à Coluche. Et là aussi, vous allez entendre, et c'est assez rare pour être souligné, que Coluche a l'air affreusement mal à l'aise.
Et pourquoi les Belges, le lundi matin, on les joue toutes griffées? Ben parce que le dimanche, ils mangent avec une fourchette.
Etc, etc. Ces histoires un peu simples, vous l'avouerez, font fureur depuis quelques mois à Paris. Le responsable, le coupable, diront certains, le voici peut-être, c'est Coluche. Il est né dans les cafés-théâtres de la capitale, et l'on considère à tort ou à raison qu'il représente le nouvel humour français. Ces sketchs mettent souvent en cause des Belges.
Qu'est-ce que vous reprochez aux Belges?
Commence bien. Alors, prochain année aux Belges. Moi, je fais seulement parler les Français. Dans les sketchs, il se trouve que les Français pensent ça. Ils pensent que les Belges sont plus cons qu'eux. Ils ont tort, en fait. C'est les Suisses qui sont plus cons. Non, c'est pas vrai. C'est comme ça, c'est le racisme. Ils aiment ça, les mecs.
Bon, voilà. Loin de moi l'idée de faire un procès à Coluche, hein, parce que à l'époque où vous vous moquiez des Français, nous on se moquait des Flamands, chacun a son Belge. Donc notre journaliste continue son enquête et comme il est à Paris, il rencontre forcément la figure de l'intellectuel. Alors sachez, amis français, que l'intellectuel c'est pas une figure qu'on rencontre partout, certainement pas en Belgique. On
moins,
est d'accord, Alex?
Moins.
Il rencontre l'intellectuel, alors on se dit ça y est, on est sauvé. Il va nous parler clichés, traditions, schémas, et tout à coup, non, vous croyez pas que le type craque?
Dans l'esprit du blagueur français, comment se présente le Belge alors maintenant?
Bon, vous savez, on est toujours accroché à des clichés traditionnels,
des schémas réducteurs, une fois bien insérés, bien enfoncés dans l'inconscient collectif des pays, le belge, c'est toujours... Quelles sont les images, hein, les signes qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense aux Belges? Alors, c'est les frites, alors, l'histoire de frites. Vous connaissez l'histoire de comment on fait devenir un Belge fou, hein? Vous connaissez celle-là aussi? Vous la connaissez ou pas? Vous savez pas comment on fait devenir un Belge fou?
Mais non! Mais non, il la connaît pas! Je veux dire, on va chercher une explication rationnelle. Le type veut nous faire rire sur une blague sur nous, de Belges fous. On est Belges, on n'est pas mazo non plus, vous comprenez? Heureusement, amis français, heureusement, le troisième extrait qui clôture cette magnifique chronique. Eh bien, nous allons retourner un français clairvoyant. Peut-être parce qu'il vit un peu la même chose que nous. Un français sage. Alors attention, ceci n'est pas la voix de Jean-Michel Apathy.
C'est plus grave qu'on pense. Les Bretons, Bécassine. Enfin, moi, je ne suis pas Breton, je suis Provençal. C'est la même chose. C'est-à-dire, on se moque de nous en nous schématisant, quoi. Bécassine, enfin, cette fille qui n'a pas de sang, qui est laide, qui est idiote et qui incarne la Bretagne, c'est inadmissible. Enfin, la Belgique, c'est quand même pas ce gros monsieur ressemblant à Coluche et qui a l'air content de lui et qui transpire. Enfin, c'est beaucoup d'autres choses. C'est une province comme une autre. Alors, cette schématisation, certainement, peut être irritante pour un Belge. Alors, je me demande si notre ennemi à tous, les provinciaux du monde entier, mais c'est pas Paris, c'est de Paris. C'est pour faire rire les Parisiens.
Amis ouais. Français, je ne suis pas venu en voiture. Si vous cherchez une plaque belge afin de me crever les pneus, je suis venu en bus.
En bus?
Oui, depuis Bruxelles, en bus. Et j'ai mangé mes tartines.
Laurence Bibot, merci Laurence, avec ce formidable travail d'archiviste. On dit merci à la Sonuma, qui est l'équivalent de l'INA.
Absolument.
En Belgique.
Mais du coup, comment est-ce qu'on peut rendre un belge fou?
Oui, oui, c'est ouais. Le blague.
Vous mettez une frite carrée dans une pièce ronde, un truc aussi idiot que ça. Vous savez, moi je fais du déni, je ne les retiens pas.
Et vous connaissez la fondue belge?
Non.
Ça, c'est quand tu prends une frite et tu la trempes dans la purée.
Ouais,
vous voyez, c'est pas bon,
ça
hein.
C'est
on a bien fait de passer à autre chose.
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mais on va passer à autre chose tout à fait tout de suite. Merci beaucoup, Laurence. On va passer, dans ces cas-là, quand il y a un bide, on passe un disque. Ça remplit.
Mais
ça, c'est une blague des Français sur les Belges, donc ça peut pas être bon. Ça pouvait pas être bon.
Heureusement qu'ils n'ont pas.
Voilà. Allez, un disque pour écouter les choses en face maintenant. Allez.
Le monde va mal. Ma, le monde va ma, le monde va ma, le monde va ma, l'économie, ma, la pandémie, ma, l'homophobie, ma, les sans-abri, ma, les dépressions, ma, la récession, ma, l'écologie. Les dictatures, ma, la non-culture, ma, le nucléaire, ma, l'ours polaire, ma, crédit social, ma, zélie faciale, ma, les idées, ma, la libido, ma, les pronostics, ma, tout pour le fric, ma.
La Poison sur France Inter. Vous écoutez par Jupy Classe et quand le monde va mal, c'est la blague qui fait du bien.
J'ai donc décidé d'augmenter de 4 mois le temps de formation initiale des gardiens de la paix.
Le journal de presque 17h17. Oh,
ça fait beaucoup, ça fait trop.
Où est-ce que tu as appris à tirer comme ça ?
À Disneyland.
Et on commence par les titres.
En Australie, un séisme fait vaciller les immeubles et provoque la panique à Melbourne.
Jean-Yves Le Drian a proposé d'envoyer tous nos sous-marins pour leur venir en aide.
Plusieurs médias dans le journal Le Monde et Le Figaro ont annoncé par erreur la mort de Paul Quillès, ancien ministre de François Mitterrand.
Apparemment, heureusement, le principal intéressé n'a pas entendu l'information.
Ah bon ?
Je ne l'avais pas fait. On aurait dit faute professionnelle.
C'est
ça, c'est belge, j'imagine,
oui,
comme humour.
Ça, c'est excellent comme humour.
Et les brefs, peut-être ?
Eh bien, en l'occurrence, c'est pas une erreur. Je vous annonce qu'il y aura effectivement des brefs.
Ouais. Toutes les bêtises qu'on dit dans le bureau, c'est pas forcément pour l'antenne, mais on commence par la politique.
Oui, la primaire écologiste. Et donc, ce matin, France Info recevait Sandrine Rousseau et elle l'a assuré.
Ce que je vous promets, c'est que je serai au second tour de la présidentielle.
Hein ? On savait qu'elle était pour la légalisation du cannabis, mais apparemment aussi pour celle du crack et de tous ses dérivés.
Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, se dit confiant dans la préparation de ces Jeux et assure que nous sommes dans les temps.
Et oui, et quand un gars tient à te rassurer sur un problème dont tu ne te tracassais même pas à la base, c'est que tu peux commencer à t'inquiéter.
Mais passons à la chasse.
Oui, totalement. Le député La République En Marche, Alain Perea, a été interrogé sur la chasse sur la chaîne parlementaire.
Alors bien sûr, on nous met en avant des questions de sécurité, mais il faut savoir que vous avez 10 fois plus de chances de gagner le gros lot au loto que d'avoir un accident en allant vous promener dans la forêt.
Et oui. Sauf que l'auto, 100% des gagnants ont tenté leur chance, alors qu'à la chasse, 100% des perdants n'avaient rien demandé du tout.
À l'international, oui. Un enfant de 7 ans écrit une lettre à la reine d'Angleterre et Elisabeth II lui répond 4 mois après.
Et oui, fort de ce succès, le petit garçon attend avec impatience la lettre de Abdelaziz Bouteflika.
Une page santé aux États-Unis. Une épidémie touche les fumeurs de cannabis qui sont pris de vomissements.
Et oui, si ça arrive en France, Doc Gynéco va être obligé de se rebaptiser Doc Gastro-Entéro.
À la mode maintenant, on se souvient tous de la robe portée par Alexandria Ocasio-Cortez au récent gala du Met.
Et oui, sur laquelle on pouvait lire Tax the Rich.
Oui, et bien la créatrice de cette robe, Aurora James, devrait plus de 100 000 dollars au fisc.
Et pas de chance. La designeuse a très vite réagi en sortant une nouvelle robe. Tax not all.
En sport, Cristiano Ronaldo a été victime d'une arnaque à la carte bancaire.
Et beaucoup ?
Près de 300 000 euros.
C'était donc ça, petite carte pour les achats de secours.
Bah oui. Et des brèves ?
Et des brèves. Alors là, il y a beaucoup d'infos dans celle-là. Haute-Loire. Ah. Ivre virgule, il fonce dans la moto d'un policier occupé à interpeller un SDF qui se masturbait. Ah mais là vraiment on a fait d'une pierre deux couilles. Pam, tout de suite.
Ah, d'une pierre deux couilles. On n'avait pas très bien entendu.
Je l'ai glissé. Même moi je l'ai trouvé un peu limite.
C'est parce que vous ne l'avez pas totalement assumé, je pense.
Je pense que c'est ça. Hein.
Oui. Je suis tombée dans le panneau, j'ai l'impression. Et la dernière ?
Et la dernière, sachez aujourd'hui, c'est intéressant, que c'est la journée mondiale du mime. Et c'est également l'anniversaire de Ségolène Royal. Comme quoi, la nature est bien faite, Ségolène Royal, on aurait tellement aimé qu'elle soit mime.
Pas merci Alex Vizorek.
Oh, quand même, quand même. Les boules qu'il laisse, franchement, c'est très très bon.
C'était excellent. Juliette Arnaud nous emmène à Rome maintenant, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un classique italien, la Storia d'Elsa Morante. Et vous nous aviez laissé la semaine dernière au moment où Ida, institutrice d'un quartier pauvre, revient dans le ghetto juif de Rome, où elle est née, pour mettre au monde l'enfant issu d'un viol par un soldat allemand. Et cet enfant s'appelle Giuseppe au moment de sa naissance et son arrivée au monde, vous nous disiez, va changer notre vie.
Oui,
Vous allez voir. Alors, après avoir lu la Storia, qui fait quand même 960 pages, hein, je prends personne en traître, j'ai pas su mettre un terme à l'immersion. Alors, pas d'inquiétude pour ma santé mentale. Comme tout être vivant, j'aime à respirer. Je ne suis pas un tabouret trois pieds. Et puis, immersion n'est pas apnée. Alors, j'ai lu d'autres livres par elle, sur elle, Elsa Morante, m'étonnant avec constance d'avoir attendu si tard pour lire ce roman que l'Italie tout entière considère comme un de ses livres majeurs. Attendu ou complètement négligé. Avant la Storia, avant de l'avoir lu, comme beaucoup de gens, mon cerveau procédait de la sorte à l'évocation de ces deux mots, Elsa Morante, sans doute parce qu'à l'instar de Calogero, je réfléchis musique. Je sais pas pourquoi. Ça m'est venu. Mon cerveau m'envoyait ceci comme réponse. Oui ? Quelqu'un ?
C'est le mépris.
Le mépris.
Ah, voilà, c'est bien, donc c'est beau, c'est romanesque. Tout le monde l'a déjà entendu quelque part, parce que ça a été beaucoup utilisé ensuite. C'est la musique du film de Godard, Jean-Luc, Le Mépris, adaptation du roman de Moravia, Alberto. Alberto et Jean-Luc, deux hommes donc pour arriver à situer Elsa Morante. Dites donc, j'ai l'impression que le cerveau de tante Juju flotte dans une bonne grosse bouillie de malgaise où c'est mes oreilles. Et pourtant, c'est pas comme si Elsa était moins connue qu'Alberto en son temps, parce que ces deux-là, ce couple tout à fait marié jusqu'au bout, bah, c'était l'équivalent de notre Beauvoir-Sartre sensiblement dans les mêmes années. Couple de gens lettrés archi-célèbres, investis dans la vie culturelle et politique de leur temps, et avec un fonctionnement de couple, on va être clair, pas super conventionnel, ça barde haut et fort, et Elsa, c'est pas la dernière pour la bagarre, et puis l'un et l'autre pratiquent la balade en extérieur. Voilà, il n'appelle pas couramment le mot monogamie. Alberto, le magnifique Moravia, ne cessant de dire aux autres, à tout le monde, que le grand écrivain de leur couple, ça c'est pas Sartre qui faisait ça, que le grand écrivain de leur couple, c'est elle. Et puis en 74, toute l'Italie en prend conscience quand enfin est publiée La Storia. Elle a attendu longtemps la précoce Elsa pour écrire son monstre livre. Elle aura attendu sensiblement 3 décennies pour raconter la guerre. Née en 1912 et juive, elle l'a bien pris pleine tête, la Deuxième Guerre mondiale. Merci, bisous, merci. Donc Elsa va raconter la guerre, sa guerre en fait, et puis sa judéité. À Rome, du côté des démunis, avec une mère célibataire seule, Ida. 2 enfants, Nino, un ado, et Giuseppe, le petit nouveau-né, et puis 2 chiens, Blitz et Bella, sous la forme d'une fable réaliste. Alors le concept de fable réaliste, peut-être ça vous fait tiquer, c'est pourtant tout simple quand on a l'envergure littéraire d'Elsa. Pour chaque année de guerre, il y a une notice historique cruellement réaliste et précise. Et puisqu'il y a de fables tout entières concentrées dans la toute petite personne d'Giuseppe, l'enfant du viol, né tout petit, trop petit, précoce lui aussi au départ, et puis à partir du moment où il assiste dans les bras de sa mère à la rafle du ghetto juif de 43, comme lentement mais sûrement anéanti par le mal avec un grand M, incapable de grandir comme les autres, incapable ou peu désireux. Elsa Morante n'a pas eu d'enfant, mais il y a Giuseppe. Je ne sais pas si Giuseppe est son enfant de papier, je ne sais pas si Giuseppe le précoce, le poreux, l'archisensible, l'enfant qui comprend mieux les bêtes à 4 pattes que ceux en station verticale est une projection d'Elsa elle-même. Je sais ces mots où Elsa rentre plein pied dans sa fiction pour écrire. Qu'on me permette de rester encore un peu en la compagnie de mon tout petit, avant que je m'en retourne seule au siècle des autres. Le siècle a fini, un nouveau a commencé, qu'Elsa n'a pas connu, elle est morte en 1985. Mais je vous promets que cette immersion l'éclaire notre siècle, comme un phare, la lumière, et puis l'ombre, et puis la lumière, et puis l'ombre, et puis merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, dites-moi, quand il naît, il s'appelle Giuseppe et après il s'appelle...
Il n'arrive pas à dire son nom.
Ah,
à
c'est
lui.
Pour ça.
Il veut parler très très vite parce que sans doute c'est un enfant qui sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, donc il veut parler très très vite et il n'arrive pas à dire Giuseppe. Alors il dit où c'est.
Très bien. Merci, merci beaucoup Juliette Arnaud pour cette lecture d'Elsa Morante. La Storia, donc, que vous nous conseillez. Et voici la césure musicale pour faire chanter les enfants, Alex.
Et oui, qui mieux qu'un enfant lui-même avec sa candeur et sa...
Ah, non.
Il s'est pas reconnu. Mais de qui il parle? Frédéric Fomet, de quoi allez-vous nous chanter?
Bien, vous savez donc que le week-end dernier ont défilé les chasseurs au cri de « Touchez pas à nos traditions ». Alors, pour Jupiclas, voici les traditions expliquées aux enfants. Papa chasseur, papa tireur, dans le tas, parfois sur les promeneurs. Faut pas se trouver dans le viseur de papa flingueur, papa chasseur, papa tueur. Tire pas même pas sur le jogger. Même quand t'es à jeun, j'ai peur, papa prédateur. Il faudrait pas toucher à ton loisir mortel. Tradition, je t'en foutrais de la chasse à la tourterelle. C'est comme si Jean-Luc Lahaye chassait la collégienne. Sur ta chaise à l'affût, tu attends le gibier sans te bouger le cul, les yeux presque fermés. Art de vivre, tu t'es vu quand ton but est de trucider. Papa chasseur, papa vapeur d'alcool, binard, binouze, liqueur. Gare au fusil mitrailleur de papa buveur, papa chasseur, papa zigouilleur. Pleure pas, t'es une erreur. Une erreur de la nature, papa massacreur. Selon Xavier Bertrand, qui parle comme un fauderche, comme un premier communiant. Spécialiste de la lèche, faut pas embêter les gens qui chassent ou qui pêchent. Au nom de la ruralité, c'est-à-dire mon bébert, est-ce celle de porter une belle cartouchière. Au nom d'une certaine idée de la France sanguinaire. Papa chasseur, papa menteur, pourquoi, pourquoi les petits oiseaux, les chevreuils et les lapros, papa sans cœur, papa chasseur, papa tireur, déconne pas si tu n'aimes pas ma chanson, je te donne mon nom. Je m'appelle Francis Lalanne.
Oh, le coup de pied de l'âne de Frédéric Fromet. Merci Frédéric. Et donc je signale à tous les chasseurs que vous jouez ce jeudi à Épinal. Vous jouez samedi à Nice et oui. Dimanche au Broc et c'est près de Nice. Oui. Voilà, merci. Comme ça, voilà. Merci Frédéric Fromet.
Frédéric Fromet sur du Jean-Luc Lahaye. Oui, papa bah chanteur. Oui,
évidemment.
Non, parce qu'on a souvent du mal dans cette émission de Jean-Luc.
Mais je l'ai cité. Hein.
C'est vrai. Tout à fait, toujours citer les grands artistes. Alex, citez-nous les autres grands artistes
dans
ce studio.
Frédéric Fromet, Juliette Arnault, Laurence Bibeau, j'ai une blague pour vous. Comment rendre un Belge fou? Eh bien, on le met dans une pièce ronde et on lui dit qu'il y a une frite dans un coin.
Ah voilà, c'était ça.
C'est drôle, là c'est drôle. Merci Jean-Baptiste
de rire.
Fallou qui nous a écrit sur Twitter. Voilà, il nous reste Marina Chiche pour la musique, Jean-Mathieu Perdin pour le cinéma, mais avant ça, celui qui, s'il se présente, c'est moi qui appellerai Paris Match pour donner des photos bisexuelles. Et c'est pas beau à voir.
Bon, ben je vais retirer de la course. Voilà. Alors les pitchounes, mais on est mercredi, c'est par Jupy Class. Enfin, plus exactement aujourd'hui, c'est par Jupy School. Parce que je vais vous donner une petite leçon d'anglais qui pourra bien vous servir si un jour vous vous lancez dans le commerce de sous-marins nucléaires, par exemple. Hein, vous pourrez ainsi apprendre la signification de fuck, fuck, fucking fuck. Roast beef of my ass, suck my dick Joe Biden, qui est actuellement la phrase la plus prononcée par Jean-Yves Le Drian. On pense à toi Jean-Yves, cœur avec des périscopes. Mais avant de faire du business, il y a évidemment un apprentissage à faire en anglais. C'est progressif, on ne devient pas Jean-Pierre Raffarin du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre l'anglais de l'entreprise qui pourra bien vous servir si un jour vous devenez business angel ou happiness manager ou un autre métier de con. Convaincu que le monde du travail est vraiment très très fun. Donc aujourd'hui, je suis allé à France Digital Day et j'avoue que ça faisait un petit moment que ça me manquait, la Startup Nation. Alors c'est parti pour la leçon avec d'abord une boîte qui met en relation des employés et les employeurs.
Pour les aider à mieux recruter aussi, avec des algorithmes de matching qui vont du coup se baser sur les CV des candidats pour les matcher avec des offres d'emploi.
On c'est un peu le Tinder des entreprises.
Un petit peu, on peut voir ça comme ça.
Voyons ça comme ça, voilà. Pour résumer, on match, hein, ça match ou ça match pas dans une entreprise, comme dans la vie. Alors Alex, c'est ce que vous appelez une valse quand vous allez draguer à l'EHPAD, vous voyez, c'est le même principe. Vous sentez tout de suite ça match ou pas. Voilà, si la prothèse de hanche va lâcher, je veux dire, voilà. D'accord ? Ok. Alors, ça va matcher les pitchounes, retenez bien ça, quoi d'autre ?
Faut que ça scale, faut scaler.
Qu'est-ce que ça veut dire scaler ?
Scaler, ça veut dire faire les choses sur une nouvelle échelle très grande.
D'accord.
Du scaliser en fait. Faut scaler les choses, faut upgrader.
Faut, voilà, scaler c'est upgrader les pitchounes, d'accord ? Lâchez pas l'affaire, hein, faut qu'on soit vraiment tous ensemble. Prenons un exemple dont j'ai assez peu parlé ici, Alexandre Devecchio. Vous voyez, le Brasiliac discount. Ouais. Et ben, il a une émission sur Sud Radio où il daube sur le service public. Et il vient scaler à France Inter, vous voyez ? Il vient s'upgrader. Il y a plus d'audience, il grandit comme ça et on a besoin même d'un terme pour ça.
Il y a l'hypergrowth.
Hypergrowth.
C'est le fait de grandir toujours plus vite. Hypergrowth.
Attention à l'accent parce que hypergrowth c'est chaud. Si y a, avec un accent de merde, vous pouvez provoquer une crise diplomatique. Si ça se trouve, Jean-Yves, c'est ça. Hein, il a provoqué une crise. Hyper grosse, d'ailleurs. Voilà, ok. Tout le monde suit, les pitchounes, vous êtes là? Voilà, on se retrouve comme ça avec des sous-marins à vendre. Comment on appelle des vendeurs de sous-marins en général et d'autres
les
choses?
Les metteurs sur le marché.
Qu'est-ce que c'est les metteurs sur le marché?
C'est les gens qui vendent, ça y est, qui vendent. Au lieu d'appeler ça des vendeurs, on appelle ça des metteurs sur le marché. C'est un must quand on pitch.
C'est un must quand on pitch.
Exactement. Les metteurs sur le marché. Exactement.
C'est un must quand on pitch. Nous, on est des metteurs sur le marché de blagues, par exemple, vous voyez, ou de dessins sur des affiches, par exemple. Voilà, on est. Tout le monde n'a pas compris. Tout le monde ne comprend pas notre humour parce qu'on ne l'a pas présenté comme ça. La prochaine fois, on choisira ce must pour pitcher.
Mais on avance ensemble.
Ah oui. Alors, les pitchounes, on avance bien, on avance bien. On va prendre un exemple concret, si vous voulez bien. Deux jeunes start-upers qui vendaient des plantes. Enfin, pas tout à fait des plantes, ils proposaient quoi ?
Alors, le totem végétal.
Mais quel rapport avec la Startup Nation ?
Ah bah, faut qu'on digitalise les plantes.
Mais comment on fait pour digitaliser les plantes ?
Ça, c'est lui, hein, c'est le créateur.
Ah bah, on va aller voir le créateur, parce que là, je sens que ça va être un bon exemple pour les pitchounes. Alors, le but, c'est quoi ?
Le but à la base, c'est de redynamiser les plantes, on va dire, de trouver une nouvelle manière de les cultiver et de les rendre accessibles à tout le monde. Et quand on dit digitaliser les plantes, c'est d'introduire la blockchain dedans en certifiant les pots, les vases qu'on a.
Vous avez fait rentrer de la blockchain dans les plantes.
Ouais, en y associant un NFT à chaque pot.
Voilà, d'accord. Alors un NFT, non-fungible token, un certificat digital dédié à une œuvre numérique pour une plante, enfin pour un totem digital. Je vous avais dit qu'il fallait s'accrocher un petit peu. Bien sûr. Alors pas n'importe quel totem végétal.
C'est-à-dire que ce qui est acheté au début peut être upgradé et on peut rajouter du bois, on peut rajouter de l'odeur.
Sur une plante?
Absolument.
Et on va rajouter du bois sur une plante?
Oui.
On upgrade la plante. Bon, alors ça, on l'a déjà vu. On pimpe la plante, on upgrade, on lui rajoute du bois et j'ai l'impression que la Startup Nation est à deux doigts d'inventer la forêt. petit à petit. Ah, d'accord. C'est ça qui est beau. Allez, concluons.
On n'a pas parlé de la lumière. Parce qu'en fait,
parlons de la lumière.
Ce qu'il faut révéler, quand c'est dans l'ombre, on révèle la plante avec la lumière.
C'est-à-dire vous éclairez la plante même la nuit?
Ah oui, parce qu'en fait, on a un petit jeune qui a développé... tu peux expliquer en fait ce qu'il a fait. Ouais.
Une sorte de module LED qui vient éclairer et rétroéclairer les racines par en dessous pour encore plus le mettre en valeur et magnifier le vivant.
Pour magnifier le vivant en rétroéclairant les racines d'un totem végétal et digital. Vous voyez, c'est simple quand on explique bien. Voilà, avant, pour faire pousser les plantes, on mettait des fertilisants, comme par exemple du caca de taureau. Aujourd'hui, c'est pareil, mais en anglais, du bullshit.
Merci Guillaume Meurice. Dites-moi Jean-Mathieu Pernin, on se marre autant à Arte? Il y a des blagues de...
Sur le bullshit, je sais pas. véritablement, ça plaisante dans la rédaction de 28 minutes, oui, forcément.
Ça fait des blagues de diplomates,
après,
de,
mais ça n'arrête
de
pas,
géopolitique.
Ça n'arrête pas. Alors justement, Jean-Yves Le Drian vient nous voir souvent pour savoir comment rire. Ça a bien marché. Ça marche très très bien. Comme dans toutes les rédactions, en fait, simplement, mais nous, on ne dit pas à l'antenne. C'est ça.
C'est la différence. On peut pas, c'est vrai. Laurence Bibot, est-ce que la Belgique peut être une start-up nation? Il y a du potentiel ou pas? Ou on parle pas du tout ce vocabulaire en ce moment?
Yes.
C'est brillant.
Ah oui,
il y a du win-win.
Il y a du win-win-win. On est dans la pointe. Hein.
Ah d'accord.
Vous ne le saviez pas.
Non, moi j'ai quitté il y a trop longtemps. j'ai l'impression. Bon, on va passer aux exercices alors, puisqu'on va revenir à quelque chose d'un peu plus traditionnel que tout ça. Hein. Alex?
Je l'ai upgradé, moi, l'exercice, Charlie.
Ah oui, d'accord.
Libération consacrée à un dossier à Angela Merkel hier. Et dans un des articles, on apprenait qu'avant de rencontrer certains politiciens, le mari d'Angela lui montrait des vidéos pour lui permettre de se familiariser avec la personne. Retrouvez dans les suivantes lesquelles sont vraies. A. Avant sa première rencontre avec Nicolas Sarkozy, son mari lui a montré des vidéos de Louis de Funès. B. avant sa première rencontre avec DSK. Son mari lui montrait des vidéos de Jackie et Michel. C avant sa première rencontre avec Éric Zemmour. Son mari lui a montré une vidéo de Charlie Chaplin. Et avant sa première rencontre avec Manuel Valls, son mari lui a montré une vidéo d'éolienne.
Et d'habitude, celle où on rit le moins, c'est la bonne réponse. Et là, vraiment, c'est difficile. Alors, mon petit exercice. Vous savez, les exercices sont aussi là pour prouver que les humoristes de service public rendent des services publics, qu'ils servent à quelque chose avec vos impôts. La preuve, nous allons justifier tous ensemble l'utilisation de l'argent public grâce à cet exercice de linguistique. Peux-tu nous dire quelle est l'étymologie du mot moustache? Petit A, cela vient de l'italien mostaccio, lui-même issu du grec ancien mistax, qui signifie lèvre supérieure. Petit B, il n'y a pas de réponse B, car nous sommes payés avec l'argent public, mais pas suffisamment pour écrire plusieurs réponses. S'il y avait moins d'exil fiscal, on pourrait écrire une réponse B. Petit C, demain il fera 20 degrés en Bretagne avec un vent de sud-sud-ouest. Voilà, ça c'est cadeau, parce qu'on donne aussi la météo. Et petit D, la réponse D sera envoyée uniquement aux personnes qui payent plus de 2500 euros d'impôts. Voilà pour cet exercice de service public.
J'en ai un si vous voulez, Charlène.
Oui, je vous en prie.
Alors, Thomas Pesquet sera ce soir dans Le Téléphone Sonne, figurez-vous. Mais c'est pas la seule émission de télévision et de radio qu'il a faite. Trouve les émissions dans lesquelles Thomas Pesquet est passé depuis l'espace. Ah. Réponse A, Thomas Pesquet a vendu une commode Louis XVI, dont affaire conclue avec Sophie d'Amour. Réponse B, Thomas Pesquet a fait une pizza dans Le Meilleur Pâtissier. Réponse C, Thomas Pesquet a participé à un débat sur CNews, pour ou contre le voile dans l'espace. La place de l'islam dans les astéroïdes, etc. Réponse D, Thomas Pesquet a jonglé avec un morse et une chipolata dans le plus grand cabaret du monde. Il y a une bonne réponse dans les quatre, c'est ça qui est incroyable.
Non.
Il y a une bonne réponse.
Il y a une bonne réponse.
Ah oui, c'est vrai.
Bah, c'est le principe de l'exercice. C'est, vrai. Non, c'est vraiment depuis le début de Parle du Pic.
C'est fou. Alors, les réponses sur notre page Facebook. Oui. N'hésitez pas à y aller, mais j'ai remarqué que vous n'hésitiez pas ces derniers temps vraiment à consulter cette page qui existe toujours. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils font à Silicon Valley, mais elle est toujours consultable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous écoutez France Inter par Jupiclas. Il est 17h44. Et du classique, on ne vous en propose pas qu'en littérature, on vous en propose aussi en musique. Avec Marina Chiche, qui a amené son violon, et bien sûr, pour une chronique virtuose. Comment je vois la pression? Marina Chiche, nous sommes tous oui.
Eh bien, je suis ravie d'être à nouveau parmi vous, comme la dernière fois. Donc, j'ai mon violon. Donc, il y a tuto. Aujourd'hui, ces derniers jours d'automne, enfin premier jour d'automne, pardon, j'ai envie de vous réchauffer le cœur et de faire vibrer votre corde sensible. Je vais donc vous parler d'une musique qui se prête particulièrement bien au violon et qui se joue avec les tripes. Pour mettre les choses au clair, tout de suite, voici ce dont je vous parle.
Alors...
Vous avez deviné de quel type de musique je vais vous parler?
Thomas Pesquet. Non, c'est toujours ça qu'il faut, répondre.
Un peu tigane. Je vais parler de musique tigane. Ce que je viens de vous bien jouer, Charline. Ce que je viens de jouer, c'est le début des airs bohémiens de Pablo de Sarasate. La dernière fois, je vous avais parlé du grand virtuose Paganini, italien. Et là, c'est un autre grand virtuose du 19e siècle. Espagnol, comme son nom peut le laisser penser, qui a étudié au Conservatoire de Paris et qui a fait une immense carrière, notamment aux États-Unis. Et alors, Sarasate, en plus d'être un interprète hors pair, il a aussi composé pour le violon. Pour les airs bohémiens, il s'est inspiré des violonistes tziganes, ceux qui jouaient dans les cafés. Eux, ils n'ont pas étudié au Conservatoire. Ils jouent tout d'oreille et ils apprennent de père en fils, en gros. Et au 19e siècle, les musiciens tziganes et leur musique étaient hyper à la mode. Donc les grands compositeurs classiques vont énormément s'en inspirer, à la limite du plagiat parfois. En plus, que ce soit Johannes Brahms ou Franz Liszt, ils vont tout pomper, ce qui va leur causer des ennuis. Il n'y a pas qu'aux humoristes que ça peut arriver. Et en plus, ça a provoqué un grand débat, parce qu'en fait, ils confondent un peu tout. Ils disent que c'est de la musique hongroise, alors qu'en fait, ils utilisent des mélodies pas authentiquement hongroises au sens de magyar, mais des mélodies tziganes, bohémiennes. comme dit l'autre, hongrois que c'est hongrois, mais en fait, c'est pas hongrois, c'est tzigane. En tout cas, il s'agit de musiques qui font pleurer, qui font vibrer, qui vous parlent de nostalgie et d'exil, et ça, pour le violon, bah, c'est idéal. Alors, quelques ingrédients, puisqu'on a dit tuto, je vous donne un peu de matière, si vous voulez essayer à la maison, hein, Guillaume. Alors, déjà, jouer sur la corde grave, ça donne un son rock, donc la corde la plus grave au violon, c'est laquelle?
Eh bien, c'est
la plus grosse. Ah non, mais ils ont pas révisé.
C'est le mi.
Aïe, Guillaume Meurice. C'est la corde de sol.
Oui, d'accord. On peut aussi dire
c'est la plus
aiguë.
Je répète, sol, ré, la, mi. Oui. Donc la corde de sol. Donc je joue sur la corde de sol. Après, je vais utiliser le vibrato. Est-ce que vous savez ce que c'est le vibrato?
Bah, arrêtez de me poser des questions. Vous voyez bien qu'on connaît rien de rien.
Mais ici. Prenez des notes. Je vous avais dit qu'on parlait souvent italien en musique classique. Alors le vibrato, en fait, c'est quand j'agite mon bras gauche pour faire trembler la note, pour la faire vibrer. Ça amplifie la vibration, vous voyez? Donc par exemple, une mélodie sur la corde de sol avec du vibrato, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, ça fait un peu pleurer dans les chaumières. Ça c'est quand je vibre, quand je vibre pas. Si je mets le vibrato... Vous voyez le truc?
Mais ouais, mais carrément.
Eh ben, carrément. Et alors là, je vais vous rajouter de la crème, je vais faire des glissades. Donc, t'as la manière de rajouter, de relier les sons. Pareil, là. Vous voyez là, c'est vous versez long. Votre petite larme quand même au passage. Allez. Bon. Alors, en plus, l'avantage, c'est que ça vous permet de vous récupérer si vous n'êtes pas très juste sur la note. D'ailleurs, Bobby Lapointe disait, avec le violon, c'est simple, il faut choisir ou tu joues juste ou tu joues tzigane. Bon, en vrai, j'essaye de ne pas choisir parce que bon, c'est un peu mon métier. Voilà. Après, la musique tzigane, une fois que tu as bien pleuré, en général, tu bois, tu pleures encore plus, tu bois un peu plus et puis tu te mets à danser. Ben oui. Bon, alors quand tu te mets à danser, tu te déhanches, il y a des contretemps, ça va vite. Et là, je reprends ma technique d'archer de la dernière fois, du vol du bourdon.
Oui, on se souvient,
oui, ça s'appelait. Il y a de l'idée. Sautiller. Spicato sautiller. Et ça donne des choses comme ça. Voilà, ce genre de choses qui sautillent et qui vont hyper vite. Bon, là, je vous sens chaudbouillant quand même.
Ouais, oui, allez.
Bon, on envoie la musique. Johannes Brahms pour faire pleurer dans les chaumières.
Thank you. C'était une danse hongroise de Johannes Brahms par l'orchestre du Festival de Budapest. Alors, une petite chose que j'ai oublié de vous dire, attention âme sensible, s'abstenir. Longtemps, les cordes de violon étaient en boyaux. On a même dit qu'il s'agissait de boyaux de chat. C'est vrai que ça fait miaou quand on glisse. Mais en fait, c'était des boyaux de mouton. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que c'était une musique qui se jouait avec les tripes, vous n'avez pas menti.
Marina Chiche, merci beaucoup. Et vous jouez ce soir à 20h au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Merci Marina. Lui, il a voyagé de France Info à Arte, il est de retour à la Maison de la Radio. Et l'Arte est une chaîne qui valorise le cinéma. Donc pour la Jupy Masterclass, voici Jean-Mathieu Pernin.
Alors parlons, oui, bah cinéma, parlons grand écran, parlons plaisir. En fait, hein, voilà, petite remise en contexte. Vendredi, Charline m'appelle sur mon téléphone, mon portable en fait, et me dit « Écoute ma sardine, j'ai besoin de quelqu'un pour une carte blanche cinéma dans l'émission, est-ce que ça te dit ?» Ah bah oui. Ah oui, avec plaisir. Le cinéma, en plus, j'adore. C'est 13,50€ quand même. C'est remboursé. Allô. Allô. Bon. Donc, ne sachant absolument pas quoi faire pour cette chronique cinéma, je suis allé voir tous les films qui sortent cette semaine. 20 longs métrages, fiction, documentaire, film d'animation, 42h27 de sieste, de plaisir sur grand écran. Avec parmi ces douceurs en salles obscures, cette semaine, un film, et c'est vrai, hein, qui s'appelle Ma mère est un gorille, et alors? Voilà, alors quand on est journaliste, on pense avoir tout vécu après avoir fait une interview de Jean Lassalle, et en fait, non. En fait, donc, je vais profiter de ce petit moment de flottement, on va dire ça, hein, dans les sorties cinéma, pour vous parler non pas d'un film, mais d'un genre que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui-ci. Et voilà, le film d'horreur, pas seulement les douches, hein. Oui, j'aime bien ces longs métrages qui vous mettent les nerfs à vif, qui vous injectent de l'adrénaline. Ces musiques, vous savez, qui, une fois la télé éteinte, vous restent bien en tête. Ce moment où vous quittez votre canapé et là, votre chambre vous paraît loin, mais si loin. Et l'électricité qui ne marche pas, comme par hasard, alors que j'ai pas payé ma facture, bizarre. On progresse dans l'appartement, le tueur est sûrement caché sous le lit. Alors là, pris par la musique et l'absence de lumière, je me cogne, je tombe à la renverse sur ma bibliothèque, je suis enseveli par le livre de Thomas Piketty que j'ai jamais ouvert. Ah, 368 pages qui me brûlent. Voilà, bref, j'aime les films d'horreur, parce que ça crée des émotions assez intenses. Le film d'épouvante, c'est la transgression. Par exemple, ceux de Dario Argento, qui faisait apparaître le sombre de l'être humain, à John Carpenter, auscultant les fièvres américaines des années 70, l'horreur, c'est la révolte des fous, des damnés, des bizarres, de ceux qui vivent avec nous et parfois en nous et que l'on ne veut plus voir. Les films d'horreur, eh ben, c'est un peu leur vengeance. Alors souvent on me dit, mais à force de regarder ces films, tu vas finir psychopathe. Attendez, non, mais pas du tout. J'aime les films d'horreur, mais j'ai pas envie de vous trucider là autour de la table, il y a aucun danger, hein. Le juge me l'a encore dit ce matin en me libérant, tout va bien se passer. Normalement. Voilà, donc on n'est pas tous égaux devant la peur, chacun la ressent différemment. Moi j'aime bien être secoué par l'exorciste ou le projet Blair Witch, mais parfois j'ai les miquettes, hein, en regardant ça.
Autre passion, à part votre métier?
Alors, je collectionne les dés.
Les dés à poudre? Oui. Alors, c'est toujours lié, c'est ça?
Voilà.
C'est digitabu...
Digitobufil.
Digitobufil?
Oui. D'accord. Je trouve que ça me correspond bien parce que ça mélange la passion, enfin mon métier, et en même temps la passion des voyages. Donc c'est super.
Parce que c'est les dés à coudre des pays, des
oui.
différents pays.
Oui.
Voilà, slam, c'est chaud, hein. Voilà, je tombe dessus, hein, sur France 3 l'après-midi avec des gens qui parlent comme ça, en collectionnant des dés à coudre. Vous imaginez la vie de cette femme? Non, mais jamais, moi, je ne rentre chez elle. Des dés à coudre du monde entier chez elle. Non, à côté, Shining, c'est la patte patrouille, hein. Quand vous passez de slam au Marseillais à Cancun, moi, mes films d'horreur sont bien innocents à côté. Le film d'épouvante, c'est donc le reflet de notre part d'ombre. C'est l'ongle incarné de la société filmée en gros plan. C'est le malaise exutoire. Prenez, par exemple, Massacre à la tronçonneuse. Comment ne pas y voir le drame de la précarité du métier de bûcheron, qui ne sait pas quoi faire de son outil de travail le week-end, alors il coupe des jambes. Même chose pour les films de zombies. Comment ne pas y voir des punks à chiens sortant d'une rêve sauvage au petit matin à la recherche d'un kebab ouvert, alors ils mangent des gens. Voilà, le cinéma d'épouvante, c'est mon conseil bien-être du jour. Une fois que vous en avez vu un, vous vous sentez véritablement en vie après avoir surmonté une telle épreuve. Par contre, attention, ne pas confondre film d'horreur et film trash. Jeudi soir, BFM va proposer un film gore, à savoir le débat Zemmour-Mélenchon. Je décline toute responsabilité.
Merci Jean-Mathieu Pernin, le seul humoriste d'Arte. Qui était donc avec nous.
Il y en a beaucoup, vous savez.
Sur France Inter. Merci les amis. Si vous voulez un petit dessin à faire pour occuper les enfants, vous savez, en représailles contre les Australiens, n'hésitez pas à dessiner des kangourous, non pas avec une petite moustache, mais des kangourous assis sur une plancha ou un barbecue. Ça fera plaisir à Jean-Yves Le Drian.
Merci à tous les amis. Merci Juliette Arnaud, merci Marina Chiche, Frédéric Fromet, merci Jean-Mathieu Pernin, Laurence Bibot qui rentre à Bruxelles, merci Alex, merci Guillaume. Je vous dis à demain, nous recevrons Camille Lelouch qui prouve qu'il existe un lien entre la carrière d'humoriste et celle de chanteuse. Et pourquoi ?
Chanter, c'est un acte complètement impudique. C'est pire que se mettre à poil, c'est dévoiler son âme.